Europe 1, en balade avec Maxime Le Forestier, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Maxime Le Forestier que nous partons en balade aujourd'hui. Il fête ses 50 ans de carrière, son premier disque en solo est sorti en 1969. Le succès est arrivé 3 ans plus tard avec des chansons comme « Mon frère » ou « San Francisco ». Il était devenu une véritable idole des jeunes, pire que Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il sort son 16e album « Paraître ou ne pas être » et il nous a donné rendez-vous dans un café juste en face du Casino de Paris où il se produira en novembre prochain.
Europe 1, 11h30, en balade avec Maxime Le Forestier, Frédéric Taddeï.
Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour Frédéric.
Ça me fait toujours quelque chose d'être avec vous parce que vous êtes un peu le grand frère que j'ai pas eu.
Oh.
Et sans vous parodier. Non mais c'est vrai, je suis typique, j'ai fait partie des petits garçons, vous avez beaucoup influencé quand vous étiez l'idole des jeunes. Je dis pire que Johnny Hallyday d'abord parce que vous vendiez plus de
pire.
Disques.
Pire.
Ah ben oui, vous vendiez plus de disques que Johnny Hallyday, mais en plus parce que vous aviez plus d'influence, j'ai l'impression, sur ceux qui vous écoutaient qu'ils ne pouvaient en avoir.
Oui.
C'était plus profond.
C'est une période tout à fait particulière quand vos chansons circulent par les cours de récré et par.
Partout.
Il
n'y
avait pas encore Internet.
Ouais.
Mais c'était sans médias, quoi, vu que j'étais assez tricard.
Oui, on ne vous voyait jamais à la télé, on vous entendait à peine à la radio.
Ben non.
Je crois même pas, non. Pas
non,
du
non,
tout.
Mais j'étais avec Parachutiste, j'étais tricard, quoi. Donc.
Et même avec bien. San Francisco, avec l'éducation sentimentale, au fond, ce sont des chansons qu'on n'entendait pas à la radio et que tout le monde connaissait.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça a été une période absolument magique, quoi. Ça a duré 2 ans, 3 ans. C'est un peu ce que vivent certains rappeurs aujourd'hui, qui circulent par les réseaux sociaux, qui n'ont rien à foutre de rien.
Sans doute, mais il y a plus de rappeurs aujourd'hui qu'il n'y avait de Maxime Le Forestier à l'époque. Vous étiez assez seul sur votre créneau.
Non, on était plusieurs. Il y avait Karadec, il y avait les débuts de Dick Annegarn, il y avait.
Mais qui n'avait pas votre succès.
Bah non, il n'y a de la place que pour un, mais.
Vous chantiez Karadec, je me souviens, sur
oui,
sa chanson sur mai 68 que j'ai repassé sur Europe 1 l'année dernière au moment du cinquantenaire.
C'était un bon copain, je l'emmenais en première partie, il était formidable, il avait une faculté à raconter les blagues en commençant par la fin. C'était un grand humoriste sans le savoir.
Mais quand je réécoute vos chansons de cette époque, il y a les chansons romantiques qui sont toujours aussi belles, aussi merveilleuses. Il y a aussi des chansons dramatiques. Au fond, je me demande si on ne vivait pas cette époque comme plus dramatique qu'elle n'était.
Absolument, oui. C'est comme quand toutes les périodes heureuses.
Oui, ouais. On en a la nostalgie aujourd'hui comme d'un âge d'or, alors que vous et nous, par la même occasion, on la vivait parfois sur le plan tragique.
Bien sûr, ben on avait ce luxe de pouvoir penser à la tragédie parce que autour de nous, c'était quand même relativement cool. Ouais.
Mais vous ne croyez pas que ce sera pareil pour notre époque ?
Non, parce que notre époque, elle est comme toutes les époques difficiles. Il y a une explosion d'humoristes depuis une quinzaine d'années. Les gens ont besoin de rire. Comme pendant la. Enfin, je ne vais pas faire de comparaison, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était Ray Ventura qui faisait des gros succès avec.
Et il y avait des boîtes de nuit à tous les coins de rue.
Il y avait des boîtes de nuit à tous les coins de rue. Quand les gens ont besoin de rire, ça veut dire qu'ils n'ont pas.
Oui, mais est-ce que ça n'est pas de l'ordre du ressenti, là encore,
bien
au
sûr,
fond
oui.
C'est vrai, on vit cette époque d'aujourd'hui comme dramatique. Peut-être qu'elle l'est moins qu'on ne le croit, et peut-être que ça finira bien, et qu'on se souviendra de tout cela comme d'un âge d'or.
J'espère qu'on le verra.
Oui, oui, déjà, qu'on sera là. Ouais. Nous sommes à une terrasse juste en face du Casino de Paris. À côté, il y avait l'Apollo, où fut créée la Veuve Joyeuse de Franz Lehár, où Carlos Gardel a fait ses débuts. Vous n'avez pas connu ça, hein, c'était
non.
Les années 20.
Non, c'était même pas une idée dans l'œil de mon père.
Et Victor Hugo habitait juste à côté. Hein,
il n'a pas toujours habité Place des Vosges.
Non, il habitait juste ici. C'est ici qu'il a écrit, juste à côté de nous, là, au 21 de la rue de Clichy. C'est là qu'il a écrit 93. Son roman sur la Révolution française.
Ah ben vous m'apprenez quelque chose.
Vous étiez plutôt un révolté, vous, pas un révolutionnaire, j'ai l'impression.
Oui. Oui, puis révolté cool quand même, parce que oui. ça se passait bien pour moi, et puis il n'y avait pas trop de risques.
Qu'est-ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas en tournée? J'ai l'impression qu'à cette époque-là, vous étiez tout le temps en tournée, tout le temps sur scène.
Entre fin 72 et mi-76... Je ne sais pas combien de concerts on a fait, mais quelquefois on en faisait 3 dans la journée.
C'est pas vrai.
C'était insensé. c'était insensé. Mais on était très léger. Il y avait deux musiciens, le Douarin à la guitare et Caratini à la contrebasse. Un mec en première partie, qui était soit Karadec, soit Favreau, soit Dutheil, soit Geneviève Paris. Et on voyageait tous les quatre et on allait de ville en ville comme ça. Comme les places n'étaient pas chères, il y avait beaucoup de monde. Donc moi je disais, ben, on va faire deux concerts au lieu d'en faire qu'un, etc. pour ne pas laisser des gens dehors. C'était vraiment... j'ai vraiment beaucoup chanté. Mais ça tombe bien parce que j'aimais ça.
Vous aviez à l'époque les cheveux mi-longs, une barbe noire, c'était très beau. Est-ce que les filles arrachaient leurs chemises comme elles le faisaient dans les concerts? Enfin, on ne disait pas concert à l'époque, on disait gala, les galas de Johnny Hallyday.
Non, elles n'arrachaient pas leurs chemises vu qu'elles ne portaient pas de soutien-gorge.
c'est une époque très particulière. Oui. Effectivement, vous n'en avez pas eu marre à un moment et d'être sur scène et d'être, vous aviez quoi, 23 ans au moment de ce triomphe,
oui.
Et d'être une sorte de, je dis d'idole, mais aussi de référence, de symbole de la contestation de...
C'est 3 ans plus tard quand je m'en suis aperçu. Parce qu'au début, j'étais content. Moi, j'avais du boulot. Ça faisait des années que c'était difficile. Et c'est vers 75, quoi, le Palais des Congrès, quand j'ai...
Mais j'étais là, les places à 10 francs.
Les places à 10 francs, quand j'ai commencé à avoir
mon père.
avoir ma tête sur des grandes affiches et tout ça. L'été 75, c'est la première fois que j'ai rasé ma barbe.
Ah oui,
pour être inconnu, oui. On est parti avec le Douarin... j'ai un copain à Lyon qui avait 2 juments dont il ne savait que faire vu qu'il avait loué leur pré pour l'été. Donc je lui ai pris ces 2 juments. J'avais acheté un vieux corbillard hippomobile dans le village d'Anne-Sylvestre près de Chablis. On avait mis une bâche militaire dessus. Ça faisait un très beau chariot western. Et on a fait 800 bornes pendant l'été. Parce qu'il fallait vraiment que je me lave la tête.
Vous étiez un vrai hippie hein, à l'époque.
Ah non, pas du tout. Non,
je plaisante.
Non, les hippies vivaient en communauté, ils étaient végétariens.
Dans des maisons bleues à San Francisco.
Oui, c'était... Mais moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais chanteur, vraiment. Ça a toujours été mon identité.
Eh bien, on va partir en balade avec vous aujourd'hui,
Maxime
Le Forestier. Et puisque le Casino de Paris nous tend les bras, autant y aller. C'est pas hasard si vous m'avez donné rendez-vous ici, j'imagine.
Bah oui, vu que j'y serai au mois de novembre. Mais il y a des petits détails qui sont marrants à voir dans ce
allons-y.
Casino.
Allons-y.
Frédéric Taddeï est en balade ce dimanche avec Maxime Le Forestier et c'est dans une salle mythique du 9e arrondissement de Paris, où le chanteur est déjà passé d'ailleurs, qu'on les retrouve.
On va entrer au Casino de Paris, 16 rue de Clichy. Ça existe depuis 1891. C'est ici que s'est produit le premier orchestre de jazz en France, en 1917. On y a entendu Mistinguett, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Line Renaud, Zizi Jeanmaire, Jacques Higelin, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc et Maxime Le Forestier, très souvent.
Bonjour.
Bonjour.
Très bien.
Bonjour. C'est la loge des gardiens. C'est l'entrée très belle du Casino de Paris. Hein, avec ses...
avec là-haut, la rosace.
La rosace, tout est rouge, il y a des lustres à l'ancienne. Des cadres dorés. Vous avez la première fois que c'était quand vous?
Je me rappelle plus. Mais c'est ma salle préférée à Paris. Moi, vous allez voir la dimension. C'est quoi? C'est 1500 places. C'est exactement la jauge que j'aime. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'écran pour voir la tête du chanteur. Et on peut créer des nuances, des silences. Essayez de faire un silence à Bercy.
Oui.
Au bout de 3 secondes, c'est le bordel. Là, les gens goûtent le silence. C'est très, très, très bien. Et puis, c'est vraiment invraisemblable, ce décor rococo.
Vos meilleurs souvenirs ici?
Les Brassens. Quand j'ai chanté les chansons de Brassens ici, c'était très beau. C'était très agréable.
Brassens, c'est lui qui vous avait repéré à l'époque où vous êtes allé le voir et lui rendre hommage?
Non, ça c'est lui qui faisait croire. En fait, c'est le patron de Bobineau qui m'avait repéré. Mais Brassens mettait un point d'honneur à dire c'est moi qui choisis la première partie. Comme ça, il nous donnait une légitimité alors qu'en fait, il ne
savait pas.
Je crois qu'il a découvert ce que je faisais sur scène.
Là, on entre dans la salle,
ouais.
La salle mythique du Casino de Paris avec ses fauteuils rouges.
Et une caractéristique du casino, c'est le promenoir.
Ouais. À l'ancienne, hein, où à l'ancienne, on venait, on fumait.
On ne fume plus. Mais ça veut dire que même quand la salle est pleine, s'il y a des gens qui veulent rentrer, ils peuvent assister au concert debout.
Et puis ça donne une ambiance. Sinon, quand on est assis tous sur des sièges, ça peut avoir un côté un peu salle d'école, non ?
Oui, mais enfin, je ne suis pas d'une génération où on peut avoir les gens debout.
Parce que vous n'êtes pas rock, vous.
J'ai pas les chansons qu'il faut pour qu'ils sautent sur place.
Vous-même, vous êtes assez statique sur scène. D'ailleurs, vous êtes plus Bob Dylan que Mick Jagger.
Tout à fait, oui. C'est vrai que je ne sais pas danser du tout. Et puis en plus, j'aime pas jouer de la guitare en ayant ma guitare accrochée à mon cou. J'aime bien être posé pour jouer de la guitare. Donc effectivement, c'est le tabouret haut.
Voilà, comme Brassens. Hein.
Non, Brassens, il était debout avec une...
Ah oui, tu as raison. Ouais.
Avec la jambe de gauche sur une chaise qu'ils avaient surélevé de 10 cm. Ils avaient rajouté 10 cm au pied.
Pourquoi ?
Pour lui, c'était son confort. Et il terminait toujours le concert avec la jambe droite complètement gonflée parce qu'il avait passé une heure et demie comme un héron.
Et vous, alors, votre confort, vous ? Il faut vous enlever des centimètres, vous en rajoutez ?
Non, j'essaye de trouver un tabouret qui m'aille. Il m'est arrivé d'avoir des tabourets très inconfortables. C'est un décorateur qui avait trouvé à Londres des tabourets. C'était des gros clous plantés dans un socle. Mais je n'avais pas d'endroit pour mettre. Donc j'ai terminé avec des mal de dos. Tout ça. Non, maintenant, je m'emploie à trouver des tabourets confortables.
On peut avoir quelques exigences au bout de
oui.
50 ans de carrière, dit-on, votre premier disque en solo, hein, puisque vous aviez commencé avec votre sœur.
Oui, commencé un peu plus tôt. Oui.
C'était l'époque de Kat et Maxime, avec votre sœur Catherine. Mais 50 ans, ça va faire un petit bout de chemin.
À côté, il faut faire avec. Hein.
Est-ce que vous avez fait des progrès ?
J'espère. J'espère que j'ai fait des progrès dans l'écriture.
Vous étiez parti d'assez haut quand même, hein. C'est quand même la plupart des chansons sont restées. Vous avez sorti une ribambelle de classiques.
Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'une chanson marche qu'elle est bonne.
Non, mais elles sont restées.
Elles restent, oui, voilà. Mais c'est
là où je parle de classique.
Quand on a fait un truc, par exemple, l'harmonisation du thème B de Mon Frère, je ne la supporte plus depuis des années.
Oui, mais c'est parce que vous en êtes lassé, non ? Vous l'avez tellement chanté aussi, peut-être.
Moi, je me souviens d'une interview où on parlait de Mick Jagger, qui disait « Chaque fois que j'entends Satisfaction, j'ai l'impression de mettre une paire de chaussettes sales. »
Ça lui arrive souvent, parce qu'il n'y a pas un concert voilà. De Rolling Stones où il chante.
Alors moi, pour éviter d'avoir ce sentiment, je les repeins. Je les arrange autrement. Je demande aux musiciens de proposer des choses. Alors, les chansons qui tiennent à ça, elles sont solides.
Né quelque part, qui est une chanson de la deuxième mouture, Maxime Le Forestier, c'est fin des années 80. Celle-là est très, très orchestrée. Comment vous la chantez sur scène ?
Cette année, je vais la chanter guitare, voix et chœur.
Ah, quand même des chœurs. Parce qu'il y avait des voix africaines extraordinaires dessus.
Ah oui, oui.
Dans la version qui est sortie en disque.
Les voix zoulous. M'a fait un arrangement.
Arthur, c'est votre fils ?
Oui, un arrangement pour la guitare qui me va tout à fait. On va la faire maigrir comme ça.
On peut faire grossir ou maigrir une chanson ?
Tout à fait, oui. Oui. Tout à fait.
Ah oui, c'est une question d'arrangement,
voilà.
De production.
Ouais.
Les petites lumières blanches de la salle du Casino de Paris, son plafond, il y a une salle d'orchestre et puis il y a évidemment le balcon. Est-ce que vous voyez les gens ? Quand vous êtes sur la scène ?
Je vois jusque-là.
Jusque-là ?
Jusqu'au cinquième rang, oui, à peu près. Ça dépend des lumières. Hein. Mais en principe, on voit jusque-là. Et puis, à un moment, quand même, on m'allume la salle, plus ou moins, pour que je voie les gens.
Europe 1. On va continuer notre balade dans le Casino de Paris.
Allons faire un tour.
Avec Maxime Le Forestier, qui connaît cette salle par cœur.
C'est toujours au Casino de Paris, mais dans un lieu caché du public, que la balade de Maxime Le Forestier et Frédéric Taddeï continue sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Maxime Le Forestier, cette fois dans les coulisses du Casino de Paris, où il se produira les 14, 15 et 16 novembre. Tout est rouge, hein, Maxime.
Oui, et sur la rampe d'escalier, elle est recouverte de velours rouge. J'imagine que c'était parce que jadis descendaient par cet escalier des femmes ornées de plumes.
Oui, c'est arrivé.
Et ça leur évitait de perdre leurs plumes.
Zizi Jeanmaire, notamment.
Oui, Zizi Jeanmaire. Ah ben, il y a eu. Oui, ça a été historique.
Stinguette.
Mais Zizi Jeanmaire, c'était une revue qui avait été écrite par Gainsbourg.
Ah oui.
Et dirigée par Jean-Claude Vanier dans la dans la fosse. Là, c'est. Allez demander à Schultes de vous raconter des histoires là-dessus. Ouais. Il était percussionniste de Vanier à l'époque.
Il y a eu beaucoup d'humoristes aussi qui sont produits ici. Muriel Robin, Jamel Debbouze, Élie Semoun, Gad Elmaleh, Fabrice Eboué.
Ici, le petit bar.
Là, c'est le bar privé, c'est le où on reçoit après le concert.
C'est ça, c'est ça.
Ouais. Il y a un ventilateur qui fonctionne parce qu'il fait très très chaud.
Très chaud, oui.
Il y a eu beaucoup de comédies musicales ici aussi, Starmania, Chicago.
Starmania est passé par ici.
Ouais. Vous-même, vous aviez fait une comédie musicale.
Ah oui, Gladiateur, oui.
Gladiateur, les paroles et la musique. Enfin non,
c'est
Spartacus,
musique, oui.
Le Gladiateur.
Oui, je ne me rappelle plus comment ça se passait.
Ça, vous l'avez oublié, ça.
Ah oui, complètement. Non, les chansons, je n'ai pas oublié.
Ah. C'était au Palais des Sports, c'était énorme. Hein.
C'était au Palais des Sports, c'était une production Chouraki, je me souviens, oui. Moi, ça m'a éclaté de faire ça.
Oui, je me souviens, je vous avais vu à l'époque. Vous m'aviez dit que ça vous avait beaucoup plu.
La fréquentation des danseurs, c'était assez exceptionnel.
Puis comme d'habitude, vous voyagez léger. Là, tout à coup, ils étaient très, très nombreux autour de vous.
C'était monstrueux. Il y avait 200 personnes qui travaillaient là-dessus. Je n'avais pas l'habitude.
Et votre loge, alors ?
Elle est là-haut.
Encore un escalier.
Avec toujours du velours sur la rampe.
Vous avez le trac avant de monter sur scène, Maxime Le Forestier ?
Je prétends que non. Mais ceux qui me connaissent vraiment bien rigolent quand je dis ça.
Là, c'est la loge de Brigitte.
Oh, pardon. Alors ça, c'est deux loges qui ont été réunies. Hein ? Parce que la loge de la vedette du casino, elle était là. Et ici, il y avait un grand portant où il y avait toutes les tenues.
Ouais.
Il y en a, je ne sais pas, il y a combien, 7, 8 mètres de tenues. Bon, maintenant, on en a moins.
Ouais.
Enfin, surtout moins.
Enfin, Brigitte, elles en ont pas mal, puisque ce sont elles qui sont là en ce moment.
Mais ah oui.
En novembre. Oui, oui, c'est Brigitte.
Alors ici, c'est extrêmement intéressant. C'est une fenêtre qu'on peut ouvrir, ce qui permet de fumer des cigarettes.
Oui, ça donne sur un jardin.
Ça donne sur un jardin avec des... Oui. L'église de la Trinité, ouais. Qu'on voit par derrière.
Vous fumez encore ?
Ouais. J'essaye même plus d'arrêter. Et la salle de bain, enfin, c'est une loge de vedette, non ?
Ah oui, c'est bien, il y a une douche, il y a tout,
ouais,
non ? C'est très beau. Attendez, pour arriver au Casino de Paris, faut remplir un peu, non ?
Oui, 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 bah oui, mais on peut remplir et pas avoir des loges aussi belles.
Ah oui, ça oui. Arrive ?
Ah oui, oui, ça arrive.
Oui, il y a un petit bar dans la loge.
Un petit bar, un endroit pour dormir. Capital pour moi.
Ah oui ?
J'ai besoin de dormir avant de chanter, oui. Comme ça, quand je me lève, enfin, on me réveille, quoi, une demi-heure avant.
Ah oui, carrément.
Oui, oui,
une demi-heure avant. Alors que les gens sont déjà dans la salle, vous dormez encore.
Voilà, je prends une douche, un café. C'est comme si je me levais du matin et j'arrive tout frais sur scène.
C'est drôle. Normalement, on a envie de. Enfin, j'imaginais qu'on avait envie d'arriver sur scène le soir, alors que non, vous avez envie d'y arriver le matin tôt.
Je suis le soir, mais j'ai envie d'avoir le. Le fait de dormir, ça évacue toutes les poussières que j'ai pu avoir dans la journée.
Ah oui, vous êtes un homme neuf.
Voilà, je suis tout neuf.
C'est pas désagréable.
Souchon fait ça aussi.
Ah oui.
Et moi, ça fait longtemps. Hein. C'est...
Alors, il se trouve qu'on a le taulier, comme vous l'appelez, le patron du Casino de Paris qui est avec nous.
Frédéric Jérôme.
Ouais,
et... non, excusez-moi, mais il y a juste une anecdote, parce que cet endroit a une histoire, il s'est passé plein de choses. C'est le seul endroit où Elvis Presley a donné un concert.
C'est vrai ?
Absolument, Céline Renaud qui me l'a raconté. Elle était en vedette de revue. Et à l'entracte est arrivé Elvis Presley. Alors qu'elle ne croyait même pas qu'il existait vraiment. Quoi. Il était militaire en Allemagne, il est arrivé là. Il a dit « je reviens à la fin ». Il est arrivé à la fin du spectacle. Il a pris la guitare de Loulou Gasté qui traînait là.
le mari de Lynn.
Exactement. Il a fait appeler le Golden Gate Quartet, qui était en première partie et qui est venu du café en face où il jouait au baby-foot. Et il a fait un concert de 3h30 à cet endroit-là. Je croyais que c'était une légende. Et Lynn me l'a raconté il n'y a pas longtemps. Je l'ai filmé parce que je me dis, ça, faut que je le garde. Voilà. C'est les deux. Cette loge, elle a ça. Et la deuxième chose, c'est Gainsbourg qui, quand il passait ici, passait sa journée à la fenêtre. Parce que là, vous avez une école qui était son école maternelle, et il écoutait les bruits des enfants et il renvoyait toute son enfance. Voilà.
Est-ce que Maxime Le Forestier a des exigences particulières quand il vient au Casino de Paris ?
Pas que je sache, non, c'est un bon client. C'est un bon client.
C'est pas qu'il vient longtemps, il vient depuis toujours. Ma sœur Anne venait d'avoir son accident, elle était en fauteuil.
Et c'était pianiste.
C'était pas aménagé pour les handicapés, j'ai gueulé comme un âne. J'ai engueulé tout le monde et je pense que ça a apporté ses fruits.
Et grâce à toi, effectivement, tu as raison de parler de ça. C'est la salle probablement une des mieux aménagées pour les PMR à Paris parce qu'on s'était vraiment fait engueuler parce que là, ils n'étaient pas contents du tout. Et du coup, on a même un truc qui a peu d'endroits, c'est un bar. C'est-à-dire que le bar des spectateurs, il y a un bar aménagé pour les maires. Il y a une caisse spécifique pour les gens qui sont en fauteuil roulant. On a fait tout au garde à vous parce que dès qu'il dit quelque chose, on fait partie des sociétaires de la maison.
Ben, je vous propose d'écouter une première chanson de votre nouvel album. On va écouter La Vieille Dame.
Écoutons La Vieille Dame.
Vous y parlez de la République.
Voilà.
On la connaît fine, fière, révolutionnaire. Quand elle allait les seins à l'air, terrasser l'oppresseur. Aujourd'hui, morose en kilos, elle veut plus changer les choses. Elle a peur, peur de l'étranger, de l'étrange, peur de tout ce qui la dérange, peur des temps nouveaux. Peur qu'un voyou la déleste, des trois bijoux qui lui restent. On dirait une vieille dame. On l'a connue chic, chère, l'hiver à la montagne et l'été à la mer. Elle a eu des misères, elle a eu des malheurs. Aujourd'hui des bines, plus d'usines, remise et la limousine. Le chauffeur. Alors elle regrette le passé, elle sait pas trop lequel c'est, le passé d'avant. Il y a des trous dans son histoire, il y a des trous dans sa mémoire. On dirait une vieille dame. Une vieille dame. Aurait-elle, cette vieille personne, des talents cachés? Et tous les galants qui sonnent à sa porte, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Elle en laisse entrer un. Elle les déteste tous, celui-là un peu moins. Au début tout va bien, suffit d'un mot qui blesse. Alors elle l'engueule, fait la gueule, dit qu'elle veut rester toute seule. Manifeste. Est-ce que c'est le pire des salauds ou bien juste un gigolo? Elle sait plus vraiment. C'est son éternelle jeunesse, elle fait ça tous les 5 ans. Ça distrait la vieille dame. Ça distrait la vieille dame. La vieille dame. Ça distrait la vieille dame.
C'était Maxime Le Forestier qui chantait La Vieille Dame. On va continuer notre balade et puis parler de la chanson puisque elle figure sur son nouvel album Paraître ou ne pas être.
Ce dimanche, Frédéric Taddeï a décidé de visiter le Paris de Maxime Le Forestier. Et c'est dans le quartier Saint-Georges qu'on les rejoint pour en apprendre plus sur le chanteur.
Nous sommes dans la rue Moncey avec Maxime Le Forestier, une rue où vivaient Maupassant et Claude Monet. C'est ce qu'il y a de bien dans le 9e arrondissement, hein, il n'y a que des stars. Quand on se promène, il y a les fantômes sont toujours impressionnants.
Oui, c'est le 19e siècle, hein, c'est l'architecture d'Haussmann.
On vient d'écouter La vieille dame, une chanson que vous avez écrite sur la République. Est-ce que vous votez maintenant ?
Évidemment, je vote. Oui.
Vous me dites ça, mais j'imagine que celui qui chantait « Je m'en fous de la France »
Il votait pas.
Il
votait pas. Le slogan, c'était « Élection piège à con ».
Exactement.
Et je ne votais pas. Et un jour, au début 81, j'étais chez moi à la campagne et j'ai reçu la visite d'un historien qui s'appelait Claude Manceron.
Qui était un ami de François Mitterrand.
Et qui est venu me voir et qui m'a dit, je te promets, si Mitterrand est élu, il nomme Badinter ministre de la Justice et nous abolirons la peine de mort. J'avais une grande confiance dans Claude Manceron. Je suis donc allé m'inscrire sur les listes électorales et depuis, j'ai tout le temps voté.
Dans cette chanson, La vieille dame, vous dites vous avez l'air de dire qu'elle regrette le passé. Elle pense que c'était mieux avant. Vous le pensez, vous aussi ?
Non.
Vous êtes resté un progressiste, vous.
Ah oui, non, non. D'abord, c'est stérile de dire que c'était mieux avant. Et puis, c'est quel avant ? De quel avant on parle ? Évidemment, c'était mieux quand on avait 20 ans, parce qu'on courait plus vite et on avait mal nulle part. Mais c'était mieux pour nous. Mais la Terre, elle tourne. Hein.
C'est drôle ce que vous dites à propos de nos présidents. Vous dites au début tout va bien, suffit d'un mot qui blesse. Alors elle l'engueule, fait la gueule, dit qu'elle veut rester toute seule, manifeste.
Oui, j'ai écrit ça pendant la campagne électorale, avant le premier tour. Oui.
Avant les gilets jaunes.
Tout à fait, oui.
Vous saviez ce qui allait arriver à Emmanuel Macron ?
Non, je savais...
Assez vite, le consensus autour de lui allait se fendre.
Oui, mais ça aurait été n'importe qui, ça aurait fait pareil.
Pareil, c'est comme ça avec chacun, d'après vous.
Oui, moi j'ai beaucoup fréquenté et je fréquente encore les Restos du Cœur. Ça fait des années qu'ils nous disent, attention, il y a des travailleurs pauvres, il y a des gens qui ont un boulot, un salaire et qui ne s'en sortent pas. Ça ne pouvait que péter, mais de toute façon, quel que soit le président, les gens auraient manifesté.
Est-ce que ça n'a pas commencé avec l'alternance, au fond, en 81, avec François Mitterrand ? Depuis que François Mitterrand a été élu en 81, jamais la majorité n'a gagné une élection intermédiaire. Ceux-là même qui ont élu une majorité au départ, un an, deux ans, trois ans après, ont tendance à voter pour l'opposition.
Ben oui. Et ça s'est accentué avec le quinquennat.
Oui, et puis au fond, on vote de moins en moins par adhésion.
Mais ça a toujours été ça, la 5e République. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine.
Même François Mitterrand, vous pensez qu'on l'a élu contre Giscard, plus
ah
que
oui.
pour Mitterrand ?
Ah oui. Ben, tous les Chiraciens qui ont voté Mitterrand pourront
oui,
vous le
sûr.
Confirmer.
Est-ce que vous êtes toujours de gauche, Maxime Le Forestier ?
Où elle est, la gauche ?
Ben, elle pourrait n'être nulle part, mais que ses valeurs soient...
Que je sois le seul.
Non, qu'elle soit toujours, que les valeurs de gauche restent... On dit que c'est quelque chose qui n'est plus opérationnel, l'opposition droite-gauche, au fond. Vous le pensez aussi ?
Franchement, je ne sais pas. Franchement, je me dis, mais si on me demande de choisir entre la politique de l'offre et la politique de la demande, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc je me dis, je ne demande pas aux responsables politiques d'harmoniser mes chansons.
Vous ne comptez pas sur eux non plus pour améliorer la vie des uns et des autres ? On peut penser qu'ils n'ont plus de pouvoir, hein, qu'ils n'ont plus ce pouvoir-là.
Vous vous souvenez d'Alain Decaux,
oui.
qui a été ministre de la francophonie pendant un certain temps.
Sous François Mitterrand.
Mitterrand. Et une fois qu'il a eu terminé son mandat de ministre, dans une interview, on lui a dit « Mais qu'est-ce que ça vous a fait d'être ministre ?» Il dit « Ça fait que comme historien, je n'écrirai plus jamais le ministre des SIDA.
On quitte la rue Blanche, on va prendre la rue Mansart. Il fait très beau, les gens sont en short, en Bermuda.
Les filles ont mis leurs jambes.
Oui. Je me demande si vous êtes un homme de la ville, vous vivez plutôt à la campagne, non ?
Moi, je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Condorcet. J'ai habité Saint-Ouen parce que on était une famille de musiciens. Et que les musiciens, ils ne peuvent pas habiter dans un appartement. Donc on avait trouvé une maison pas chère à Saint-Ouen. Mais je suis un vrai Parisien dans le pire sens du terme. Quoi. Je prends mon passeport pour passer le périph. Ça, mais comme tous les Parisiens, j'ai besoin d'un endroit pour respirer. Et je l'ai trouvé il y a 40 ans dans le Loir-et-Cher.
Vous avez fait une chanson sur votre nouvel album qui s'appelle « Ça déborde ». Ouais. Il parlait des déchets, des détritus, mais aussi au fond des populations dans les villes.
C'est un peu ça, oui. Quand je suis en avion et que je vois des villes qui s'étendent, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de voir des termitières. Ouais. Je me dis, mais ça va s'arrêter où ? Alors, j'ai entendu l'autre jour un couple qui avait une quarantaine d'années qui disait, nous, on ne fait plus d'enfants parce qu'il ne faut pas surpeupler la planète. Et en les voyant, je me suis dit, mais c'est pas par les enfants que la planète est surpeuplée, c'est par les vieux. Et comme j'ai eu 70 ans il n'y a pas longtemps, je me suis senti particulièrement menacé.
Et on va arriver chez Guitare Garage, rue du Perret, toujours dans le 9e arrondissement avec Maxime Le Forestier. On s'y retrouve dans un instant.
Pour la suite de leur balade, Frédéric Taddeï et Maxime Le Forestier vont retrouver Arthur, le fils du chanteur, qui est en train de faire réparer sa guitare chez Guitare Garage.
Nous voilà au 19 rue du Perret, devant Guitare Garage et face à un terrain de basket derrière une grille. Il y a beaucoup de jeunes gens en train de jouer au basket. Je veux dire, il fait un très très beau soleil. Vous jouez au basket ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non, non. La seule activité physique que j'ai pratiquée dans ma vie, c'est pas du sport, c'est un art, c'est l'équitation. Pour le reste, non.
Eh bien, entrons chez Guitare Garage.
Bonjour.
Où se trouve votre fils, Arthur ? Bonjour.
Bonjour.
On est chez Guitare Garage. C'est là que vous réparez, vous fabriquez ?
Ouais, c'est ça, on répare, on fabrique, on personnalise, on customise, comme on dit, qu'on fait un peu... Toutes les activités que peut faire un luthier, quoi, de la réparation, l'entretien simple à la fabrication entièrement sur mesure. On peut partir du bout de bois vraiment brut. Quoi.
Là, je vois des guitares électriques. Maxime Le Forestier, jamais de guitare électrique.
J'en ai acheté une Gibson Les Paul que j'avais achetée à Marcel Dadi et que Arthur a gaulé, évidemment. Mais ça tombe bien parce que je n'en étais jamais servi.
Vous jouez de la guitare électrique, Arthur ?
Sur un malentendu, oui, parfois.
Mais en cachette de votre père.
Évidemment.
Ici, on accueille tout le monde. Il y a un gros volume en guitare.
Maxime Le Forestier, il a dû faire vendre des guitares. Vous n'étiez peut-être pas né à l'époque.
C'était mon père. Il a dû. Je m'appelle Maxime aussi, c'est ce que je lui confiais.
Ah oui, bah,
c'est un demi-hasard de
mémoire. Oui, ça n'est qu'un demi-hasard, c'est sûr. Et vous avez travaillé ensemble sur cet album avec votre fils ?
Ah oui, il a fait une musique, il a joué toutes les guitares rythmiques avec son professeur Manu Galvin. Et puis il m'a poussé. Je pense qu'il ne m'aurait pas poussé, il y aurait eu un album, mais dans 5 ans. Quoi. Je laissais faire.
Oui, ça faisait 6 ans déjà que les fans attendaient.
Oui.
Je crois que sa maman, vous l'avez rencontrée sur Europe 1, elle travaillait sur Europe 1.
Oui, elle faisait une émission de sport sur Europe 1. Puis après, elle a travaillé avec Coluche.
Oui, quand Coluche était sur Europe 1.
Oui, avec Roucas aussi, avec Les Inconnus. Elle faisait ce que les Québécois appellent recherchiste, quoi. C'est ce que les Français appellent assistante, c'est-à-dire tout.
Donc vous êtes un enfant d'Europe 1, au fond.
Oui, on va dire que je suis un peu né là-dedans.
Mais comme dit un chanteur dont j'ai oublié le nom, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille.
Effectivement, et le gland ne tombe jamais loin du chêne.
Mais ce n'est pas dans la même chanson, ce n'est pas dans
non,
quelque
mais
part.
Non, ce pas dans une chanson, mais c'est ce que je répète souvent.
Ce qui justifierait le fait qu'il chante et qu'il joue de la guitare.
Oui, puis il y a aussi, ce serait mieux avec une guitare juste. Non, on a quelques codes comme ça qui l'auront, j'espère, marqué profondément.
C'est toujours emmerdant de venir sur le terrain de son père, non ? De chanter, de jouer du même instrument que lui. Fatalement, à un moment, on se retrouve en compétition, non ?
Non, parce que la guitare, je pense qu'il n'y a plus de compétition.
Vous êtes meilleur.
J'en joue mieux. Mais non, honnêtement, en plus, il n'y a jamais. Dans ma tête, il n'y a réellement jamais eu de compétition, parce que se mettre en compétition, déjà pour moi, c'est avoir tort dès le départ. J'ai une magnifique relation avec mon père. Il a écrit des chansons pendant sa vie, moi aussi. Enfin, et c'est pas la même époque. Et je pense que c'est une erreur de se comparer.
En tout cas, vous en avez fait un garçon de gauche. Hein, il est contre la compétition.
Oui, mais est-ce que la gauche, ça signifie encore quelque chose?
C'est vrai, c'est le leitmotiv de Maxime Le Forestier. Ben, écoutons Le Ruisseau, la chanson que vous chantez ensemble.
Chanson de Philippe Lafontaine.
Ma vie, j'ai suivi le méandre qu'un constant dessinait mon ruisseau. J'ai coulé mes jours à me répandre trop. Une coquille de noix pouvait s'éprendre d'une brindille ou d'un bébé roseau. Étourdi par mon clapotis tendre, le long des lisières, au flanc des coteaux, en serpent de verre, offert aux oiseaux, descendu des alpages, une idée de rivage. C'est ainsi qu'au fil de la fortune, la rivière a changé mon ruisseau, et dans l'onde où se baignaient mes lunes, maintenant s'y dégagent des cargos. Quant à l'estuaire, c'est vu mon ruisseau, en rade à la mer, en frère de caniveau, j'ai taquiné les traves des courants qui déçoivent. Du maquis que la rosée parfume, tout le pré reboit dans mon ruisseau, à l'heure où l'aurore emporte mes brumes. Oh,
c'était Le Ruisseau, une chanson qui figure sur le nouvel album de Maxime Le Forestier. Une chanson de Philippe Lafontaine, quand il vous a apporté... Le Ruisseau, le texte, c'est vous.
Non, pas du tout.
Ah non, il a écrit Lafontaine à la maison. A écrit Le Ruisseau.
Lafontaine a écrit Le Ruisseau, c'est pas... Vous n'êtes pas le premier à faire la relation, non, mais ça reste drôle.
Merci, vous êtes indulgent.
Non, il vient tous les ans à la campagne.
Il
n'a
jamais écrit une chanson.
Non, là, il avait un début et Arthur l'a fait chier jusqu'à ce qu'il a fini. C'est devenu une des chansons qu'on aime chanter tous les deux. Il y a ça, il y a Bruxelles, Dangarn, il y a la balade de Jim, de Souchon. Il y a des chansons qui sonnent bien avec nos deux voix.
Ouais. Et qui sont toujours écrites par d'autres.
Qui sont toujours écrites par d'autres, bien sûr, puisque quand on chante à la maison, on ne chante jamais mes chansons.
Ah oui, pourquoi ouais. C'est une règle que vous avez instaurée?
Oui.
Oui. Bah, oui. Ça vous
sauf quand elles sont toutes neuves, évidemment. Oui. Mais...
Sinon, ça vous rappelle le bureau, peut-être.
C'est un peu ça, oui. Ouais.
Et côté guitare, alors, vous avez besoin de gens qui s'occupent des vôtres attentivement.
J'en ai une qui a besoin d'un peu d'attention. Et voilà, donc j'espère que c'est
elle
charmant.
Demande moins d'attention qu'un Stradivarius, quand même. Une guitare, c'est moins fragile.
Oui, non, elle est quand même un petit peu moins précieuse. on va dire. Enfin, un petit peu moins cher, en tout cas.
Quoique.
Non, après, comme guitare chère, non, si, il y a les deux guitares de luthier de mon père, d'Alain Keguiner, il y a à peu près toutes les guitares de Cabrel.
Mais parce que c'est les guitares de Cabrel.
Non, parce qu'il a, lui, c'est un collectionneur guitariste. C'est un guitariste collectionneur, mais il les a toutes jouées. Il les joue toutes et il connaît les possibilités de chacune. Hein. C'est parce qu'Arthur a bossé à Stafford dans le studio
donc,
de Francis.
Dans le village de.
Ouais. Et Francis lui apportait des guitares. Tiens, essaye celle-là, essaye celle-là.
J'ai pu tâter de la guitare chère.
On se retrouve dans un instant, toujours chez Guitare Garage, avec Maxime Le Forestier et Arthur Le Forestier.
Dans la famille Le Forestier, il n'y a pas que le père qui aime la musique. Non, non, le fils aussi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend dans la suite de leur balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours chez Guitare Garage, 19 rue du Perret, et Arthur Le Forestier est en train de faire réparer sa guitare. Elle souffre de quoi exactement ?
Elle souffre d'une température trop basse qui a tordu son manche et je ne peux plus la jouer malheureusement. Je suis triste.
Ça a une vie de combien de temps une guitare, Maxime ?
Ça dépend. Moi je me souviens de mes Favino. Favino c'était mon luthier quand j'étais jeune, c'était le luthier de Brassens. Et ces guitares ont mal vieilli, parce que la table d'harmonie, la planche qui est sur le dessus, était très mince. Donc elle s'est gondolée, et ça, c'est, je pense que ce n'est pas rattrapable, sauf à changer la table d'harmonie. Hein.
Grosse restauration, on en a fait de temps en temps sur des Favino, notamment, qui sont dans le monde des guitares chères aujourd'hui, d'ailleurs.
Ah oui, j'en ai deux. J'ai une 12 cordes de 67 et une 6 cordes de 71.
Ouais, c'est des constructions qui n'ont pas forcément bien vieilli.
Il ouais. Y a un de vos collaborateurs qui parlait de la guitare de David Gilmour. Des Pink Floyd qui vaut plusieurs millions de dollars, c'est
ouais,
ça
qui, je crois qu'il a fait un record à 2-3 millions de dollars.
Parce que c'est la guitare de Gilmour ou parce qu'elle était spéciale?
Ouais, parce que c'est la guitare de Gilmour, c'est une Stratocaster, je sais même plus, des années 60, je crois.
Il est gentil, Gilmour, mais enfin, c'est pas Jimi Hendrix. Hein.
Ouais, bah, je crois que un des précédents records, c'était Jimi Hendrix.
Voilà, justement. Là, on comprend mieux.
Voilà, c'était l'occasion d'une vente caritative aussi, donc ça a permis de lever des fonds aussi, il me semble.
À propos du caritatif, vous avez arrêté les Restos du Cœur,
oui.
Maxime Le Forestier ?
Oui, oui, j'ai pas arrêté mes relations avec les Restos du Cœur, mais j'ai arrêté les Enfoirés parce que je pense qu'il faut que cette histoire-là, ça dure. C'est donc place aux jeunes, et si on veut qu'ils réussissent, il faut que les vieux leur foutent la paix.
Vous êtes resté longtemps. Hein.
Moi, je suis resté presque 20 ans.
Un an de plus, je crois, que Jean-Jacques Goldman.
Oui, moi, je voulais partir la même année que lui, mais il m'a persuadé d'attendre un peu pour ne pas faire hémorragie. Ce n'est pas parce que je trouve ça pas bien, hein, je trouve ça... Mais maintenant, ça y est, il faut qu'ils fassent leur sketch, il faut qu'ils se défendent eux-mêmes. Les Enfoirés, ça a été créé par des mecs qui avaient 30 ans, 40 ans. Maintenant, il faut que ce soit ceux de 30 et 40 ans qui prennent le relais. J'ai trouvé la dernière mouture excellente, d'ailleurs.
Quels sont vos meilleurs souvenirs de ces tournées ?
Il y a la tournée de l'an 2000, où là, on a fait une vraie tournée. C'est l'année où on a fait le moins d'argent, parce que évidemment, en logistique, on dépensait beaucoup. Où il y a eu la guerre des bus, il y avait Jean-Marie Bigard, il y avait...
C'était quoi la guerre des bus ?
Il y avait un bus fumeur et un bus non fumeur.
Je sais dans lequel vous étiez.
Dans le bus fumeur, on ne fumait pas que du tabac, d'une part, et on les a fait chier mais pendant toute la tournée. Ça a duré.
Vous avez fait chier les non-fumeurs ?
Ah oui, ah oui, 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 oui.
J'y pense, vous avez... À ma connaissance, jamais fait de chansons sur la drogue, le cannabis. Pourtant, c'était l'époque, ça
commençait. Il y a des allusions. Dans San Francisco, en oui, lacet roulant dans l'herbe.
Oui, oui, c'est vrai, dans San Francisco, ouais. Bien sûr.
Nageant dans le brouillard, en lacet roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, file à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux. On s'endormira quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco.
Pendant quelques années, avec Boris Bergman, on se donnait rendez-vous tous les ans, la première semaine de mars à Amsterdam, dans un hôtel, en se disant on fait une chanson par jour. Boris, c'est difficile de l'empêcher de faire des allusions au pétard.
Boris Berman, qui était également le parolier d'Alain Bachung.
De Bachung, bah, c'est lui qui a écrit « T'es bien plus belle que Morissette, qui est belle comme un pétard, qui attend plus qu'une allumette ». Il n'y a que Boris pour trouver ce genre de choses.
Et on a tendance à oublier que vous avez eu des paroliers, au fond.
Moi, j'adore écrire des chansons à deux. Ouais.
Parce que vous, vous avez écrit aussi les paroles de nombreuses chansons d'autres.
Oui, j'aime bien écrire tout seul, mais j'ai travaillé avec Boris, j'ai travaillé avec Joël Kopf, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, la fille qui a écrit « Femme libérée ». On a écrit quelques chansons ensemble. Boris, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment un jeu de ping-pong, et puis il va très, très vite. Quoi. Lui, il a une espèce de foisonnement dans la tête qui fait qu'avec lui, on a fait « Chienne d'idée », on a fait... Tu peux partir, j'ai ta photo.
Arthur, vous en avez écrit sur cet album ?
Sur le nouvel album ? J'ai écrit une musique.
Les filles amoureuses ?
Les filles amoureuses, ouais. Enfin, les filles tombent amoureuses de n'importe qui. J'ai l'impression qu'elles m'appartiennent un petit peu aussi parce que j'ai fait les maquettes à la campagne quand il fallait les poser. J'ai l'impression que d'avoir fait aussi un peu cet album.
Merci Arthur. Merci Maxime de nous avoir reçus chez Guitar Garage. On se retrouve juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Maxime Le Forestier, Frédéric Taddeï.
Nous voilà en voiture avec Maxime Le Forestier en direction de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Maxime Le Forestier qui sort... un 16e album, je crois, si j'ai bien compté. 16e album studio. Paraître ou ne pas être. Le titre, ça veut dire que quand on ne sort pas de disque, on a tendance à disparaître des radars, on vous oublie ?
C'est pas loin de ça, oui. Mon point de départ sur cette chanson, c'était est-ce qu'un livre qui est écrit et qui n'est pas publié, est-ce qu'il existe ? Et comme quoi les chansons, ça t'emmène quelquefois dans des endroits où tu t'y attendais pas. C'était ça mon point de départ.
Depuis qu'on a commencé cette balade, on est sur la rive droite. Je me dis qu'on aurait enregistré cette émission il y a 40 ou 50 ans. On n'aurait été que sur la rive gauche. Et ça a bien changé, cette dichotomie n'existe plus au fond. Vous étiez un chanteur rive gauche, lui.
Je sais pas, parce que les cabarets de la rive gauche m'ont jamais vraiment accueilli.
Mais chez Bernadette, quand même.
Il y a eu chez Bernadette, mais chez Bernadette, c'était particulier.
Il y avait tous les chanteurs de la rive gauche.
Oui, qui venaient après leur numéro, parce que comme on était payé pas cher, il fallait en faire plusieurs dans la soirée. Et on se retrouvait chez Bernadette pour manger, mais il y avait zéro client. Enfin, quand il y avait un malheureux client qui venait, il payait tellement cher qu'il ne revenait jamais.
Vous y chantiez aussi
Tout le monde chantait pour payer son repas. Bernadette a fait faillite en 2 ans, je crois.
Il y avait Coluche qui faisait la plonge, je crois, à l'époque.
Coluche faisait la vaisselle, mais il chantait aussi de temps en temps. Il chantait du Bruant. C'était magnifique. Mais il y avait Augeret, il y avait
Moustaki.
Il y avait Moustaki. Oui, c'était...
Il a été important pour vous, Jean-Jacques Moustaki ?
Capital, oui. Capital.
Il paraît que vous lui écriviez de longues lettres quand vous faisiez votre service militaire chez les paras.
Oui, j'avais un peu de correspondance, mais ce qui était précieux, c'était surtout ses lettres à lui, parce qu'il les faisait poster depuis Polydor, donc il y avait la marque Polydor sur la lettre.
C'est toujours votre maison de disque.
C'est toujours ma maison de disque.
Vous êtes resté fidèle à votre maison de disque.
Mais c'est vrai aussi,
oui,
ils m'ont jamais viré.
C'est tout aussi rare.
Et pourtant, il y a eu des moments où je vendais que dalle, donc... Ils m'ont toujours soutenu, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est rare.
Pourquoi vous aviez fait votre service militaire chez les parachutistes ?
Alors au début, comme j'étais un peu parano, je me suis dit c'est parce que j'ai fait des concerts en mai 68 dans des usines en grève et tout. Et en fait, c'est en bavardant à Djibouti il y a une vingtaine d'années avec un officier de para.
Oui, il faut dire que notre armée est toujours à Djibouti.
Notre armée est toujours à Djibouti, oui. Mais pas que notre armée. Et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était vraisemblablement un officier orienteur. Il y avait des officiers qui disaient celui-là, il va aller là, celui-là, il va aller là.
Etc. C'était pas encore informatisé.
C'était pas encore informatisé et qui a voulu me donner une chance. Parce que j'habitais Saint-Ouen, j'avais pas le bac, mes parents étaient divorcés, j'avais pas de métier. J'étais vraiment fait pour devenir de la racaille. Et il a dû se dire, enfin je sais pas, je le connais pas ce mec, je sais pas qui c'est. Mais il a dû se dire, bon, lui, je vais lui donner une chance de faire quelque chose de
et
bien dans sa
vous
vie.
Vous avez écrit « parachutiste ».
Oui, mais curieusement, parachutiste, ça a été, c'est devenu un hymne antimilitariste. Mais au départ, quand j'ai réussi à me faire sortir du 13e régiment de dragons parachutistes où j'avais été incorporé, au bout de 2 mois de classe, la veille, j'invite à boire une bière le sous-officier qui nous avait entraîné, qui était un combattant exceptionnel, capable de piéger un caillou, un type vraiment formidable, et qui était fils d'une maman vietnamienne et d'un papa militaire français. Et il m'a raconté sa vie, et j'ai fait une chanson avec sa vie. Je crois qu'on engage dans la police, c'est une phrase qui est de lui. Parce qu'il s'emmerdait, lui, à essayer de dresser...
C'est son portrait que vous faites, tout.
En fait, c'est son portrait. C'est quand même curieux d'arriver à faire une chanson qui devient un hymne antimilitariste avec le portrait d'un exceptionnel militaire.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que 2 engences. Les gens bien et les terroristes, parachutistes.
Mais je me souviens à quel point cette chanson remuait, y compris dans ma génération, on était plus jeunes, c'était les gens se mettaient debout, je me souviens, au Palais des Congrès quand vous la chantiez.
Ah oui, oui, oui. Et puis, il réagissait toujours au même mot. C'est ça qui m'a...
Le mot fasciste.
Entre autres, oui. Mais c'est ça qui m'a un peu lassé à un moment, parce que le côté automatique de la révolte me... franchement, me gonflait.
Eh bien, on se retrouve dans un instant à Gennevilliers, au conservatoire Edgar Varèse, avec Maxime Le Forestier.
Pour la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï, Maxime Le Forestier a décidé de nous présenter un percussionniste qu'il connaît bien, bah oui, puisque c'est un de ses musiciens.
Nous voilà devant le conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, 13 rue Louis Calmel. On rentre. Qui on vient voir, Maxime Le Forestier ?
Là, on vient voir un percussionniste qui s'appelle Sébastien Quesada, qui enseigne ici de la musique traditionnelle. Principalement de percussion, donc, enfin même uniquement de percussion. Et sa spécialité, c'est le vaudou.
Ah.
Donc le fait qu'il y ait conservatoire et vaudou l'un à côté de l'autre, j'ai trouvé ça assez marrant.
En effet, mais vous le connaissez.
Ah ben évidemment, c'est avec lui que je joue. Tiens, le voilà.
Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour. Enchanté. Comment allez-vous ?
Il y a beaucoup d'enfants. Hein.
Bienvenue au conservatoire. Oui, on est dans un conservatoire de musique à Gennevilliers. Et oui, on a énormément d'enfants, d'adultes. Bienvenue.
On vous suit ?
Oui, venez. En fait, on va trouver la salle de percussion traditionnelle qui se trouve au 2e étage.
Sébastien Quesada, c'est chilien ?
C'est chilien, oui. Je suis né dans les 1000 jours d'Allende.
Ah, oui, juste avant
en 73.
Le coup d'État de Pinochet.
Voilà.
Et si j'ai bien compris, votre père était un des Quilapayún.
C'est ça, c'est Carlos, l'un des ténors, l'une des voix solistes du groupe.
Et les Quilapayún qui ont joué avec Maxime Le Forestier.
Ah, je les ai eus en première partie souvent. Oui.
Quand ils sont partis en exil, hein, après.
Non, ils étaient en tournée en France pendant le coup d'État.
C'est ça.
Et donc on les a gardés.
Et c'est
on
comme
a
ça
bien
que,
fait.
C'est comme ça que vous avez rencontré Sébastien ?
Pas du tout. Pas du tout. J'avais envie d'un percussionniste et j'ai demandé à mon ami Patrice Caratini qui a un grand orchestre, enfin qui en a eu plusieurs, donc qui connaissait plein de monde. Est-ce que tu aurais un percussionniste pour moi ? Il a hésité parce que il savait qu'il allait le perdre s'il me donnait son téléphone. Et il l'a perdu.
Donc là, on est dans le SAS. Là, c'est l'auditorium du... En fait, on est en plein boom parce que c'est les périodes d'examen. Donc, il y a des activités dans tous les sens. Mais là, déjà, de dehors, on entend le son des tambours. Parce qu'ici, c'est une classe de percussion traditionnelle cubaine. unique dans la galaxie, on va dire. Parce qu'on peut se... Il y a un cursus et on peut sortir diplômé d'un tambour qui est rarement enseigné dans une institution, qui sont les tambours bata.
Ce qu'on entend là ?
Oui. Et les tambours bata sont des tambours de cérémonie vaudou à Cuba.
À Cuba, on appelle ça la santeria.
La santeria. Le vaudou, c'est le culte des orichas. Et la musique est intégrée dans le culte. Et on ne sait pas à partir de quand la musique existait ou les mythes, enfin, dans quel ordre les choses sont arrivées, on ne le sait pas. Et donc, c'est un cours essentiellement basé sur l'enseignement des bata ici.
Vous y croyez aux orichas, Maxime Le Forestier ? Aux goûts
Non.
Et vous, Sébastien, vous y croyez ?
Je ne me pose pas vraiment ce genre de questions. Ce n'est pas ce genre de questions qui se
posent. Je suis le seul à y croire.
Non, les orichas, on les appelle vaudoun. C'est dans la baie du Bénin que ce culte, qu'on voue ce culte à ces dieux. C'est comme un panthéon grec. Et donc, il y a beaucoup de divinités. Les orichas, qui sont donc des divinités qui ont une vie réelle dans un autre monde. Ouais. C'est le principe de ce culte.
Donc
on y va. Oui, ça vous embête pas si je chante tout d'un coup ? Parce que moi, quand je rentre là, je me mets à chanter. Hein.
On vous écoute.
Ah, il y a des élèves qui chantent à ma place.
Yeah, yeah, Maya, Fumilo, yeah, Maya, oh, mio, mi, yare. Awoyo ye maya fumilowo ye maya o mi o mi yare. Awoyo ye maya fumilowo ye maya o mi o mi yare.
Formidable.
Ma classe.
Donc là, c'était pour Yemaya.
Là, c'était pour Yemaya. Et donc, en fait, le répertoire qu'on étudie dans la salle, ici, dans la salle de classe du conservatoire, il est environ, pour ce qui est de la musique de Santeria, de 70 rythmes différents joués au bata, que vous voyez là, et de 1000 chants environ pour les orichas. Ça, c'est le répertoire qu'on travaille ici. Donc, c'est très vaste. C'est un cursus en 4 ans, diplômant. C'est ça qui est un peu incroyable.
Bah on va vous laisser travailler. Merci de nous avoir reçus. Et on va en profiter pour écouter une chanson que j'aimais beaucoup. J'ai l'impression que cette chanson a été un peu oubliée, une chanson de Maxime Le Forestier. J'ai l'impression que vous ne la chantez pas.
Laquelle ?
Tout le monde parle toujours des mêmes chansons de Maxime Le Forestier. C'était « Mourir pour une nuit ».
Ah oui, celle-là, elle n'a pas eu de chance. Elle était sur le premier album, mais... L'arrangement était tellement riche, l'arrangement d'Hubert Rostin était tellement riche que j'ai jamais été satisfait de ce qu'on pouvait faire avec deux guitares et une basse. Donc elle a été virée du tour de chant, mais dans la semaine.
Ben voilà, c'est une chanson que j'aimais beaucoup, moi, quand j'étais adolescent. Une chanson très romantique. Et on l'écoute.
S'endort, faire la nique à la mort.
pour un regard au fond d'un mausolée pour discuter ce soir avec les feux follets. Mourir pour un baiser, mourir pour cette main qui viendra caresser mon corps demain matin. Mourir, mourir, mourir. Pour une nuit, pour un après-midi. Mourir, mourir. Comme on s'endort vers la nuit qu'à la mort. Ouvrir les yeux ouverts pour mieux te regarder et voir dans tes yeux verts une larme couler. Mourir pour le plaisir de renaître demain. Mourir dans un sourire et te comprendre enfin. Mourir, mourir, mourir. Pour une nuit, pour un après-midi. Mourir, mourir. Comme on s'endort vers la nique à la mort. Mourir comme on s'endort. Mourir comme on s'ennuie.
C'était Mourir pour une nuit, chanté par Maxime Le Forestier en 72, donc, hein, sur le premier album. On se retrouve dans un instant, toujours avec Maxime Le Forestier.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï part en balade dans Paris avec Maxime Le Forestier, enfin en tout cas proche de Paris, vu que c'est à Gennevilliers qu'on les retrouve ce dimanche.
On est avec Maxime Le Forestier au Conservatoire Edgar Varèse à Gennevilliers. J'ai l'impression que l'industrie du disque, si tant est qu'on l'appelle encore ça aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand vous avez débuté il y a 50 ans.
Ah, ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques séismes. Ouais.
Il n'y a plus de boutique de disques. Il n'y a plus de disques, d'ailleurs.
Si, il y a une renaissance du vinyle.
Oui, mais bon.
Quand même.
Ah oui, vous parce le sentez, que... vous?
Ouais, et je pense pas que ce soit uniquement la nostalgie du bon vieux temps. Je pense que il y a une vraie raison technique. C'est une musique qui est beaucoup moins compressée.
Oui, c'est le son est meilleur.
Pas le son est meilleur. Il y a plus de différence entre le pianissimo et le fortissimo dans le son numérique, un peu à cause des radios d'ailleurs. On est amené à compresser tout et à faire que tout soit fort tout le temps. Le vinyle permet, enfin autorise une dynamique plus importante. Et puis il y a aussi, enfin ça j'en ai bavardé avec pas mal de gens ces temps-ci, le fait de s'asseoir et d'écouter un album. Ça c'est une chose c'est un plaisir que beaucoup de jeunes ne connaissent pas et quand on leur fait découvrir ils sont contents.
Mais je me souviens d'une chanson de vous qui s'appelait « En février de cette année-là », quand vous racontiez tout ce qui s'était passé l'année, le mois de votre naissance. Et vous oubliez quelque chose à l'époque. Il n'y avait pas Wikipédia, c'était moins facile. C'est que février 49, c'est là où on a commencé à commercialiser les 45 tours.
Ah, je ne savais pas.
C'était aux États-Unis, pas en France. En France, c'est arrivé plus tard, 2-3 ans plus tard. Mais vous êtes né avec le 45 tours.
Ben voilà, oui. Et j'en ai jamais vraiment vendu, d'ailleurs, des 45 non, c'est tours. Vrai. C'est...
Mais d'où votre, quand même votre amour du micro-sillon?
Moi, non, je n'ai pas d'amour pour le micro-sillon ni pour le disque en général. J'ai de l'amour pour la chanson.
Ouais.
Pour,
mais vous êtes quand même attaché au vinyle.
Mais j'aime bien le vinyle, mais non. Ce qui est important, c'est que les chansons soient, que les chansons existent et qu'elles puissent être écoutées. C'est ça, le support. Le support que je préfère, c'est quand même la scène. Hein.
Et vous le disiez, vous êtes toujours dans la même maison de disques, c'est extraordinaire, oui. La maison de disques Polydor. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez de la musique, vous l'écoutez sur quoi ?
Soit je l'écoute sur CD, soit je l'écoute sur Deezer. Ouais.
Comme les jeunes, quoi.
Bah, c'est plus pratique. Si, à la campagne, j'écoute du vinyle quand même. Si, je m'écoute des vieux Nougaro sur vinyle. Et puis maintenant, il y a des rééditions qui sont pas mal du tout. Donc,
vous avez eu de la chance. Vous avez vendu, alors pas beaucoup de 45 tours, mais beaucoup de 33 tours à vos débuts. Plus que Johnny Hallyday, je disais. Ensuite, on a racheté vos disques en CD. Aujourd'hui, on paye pour les écouter sur Deezer.
Oui, je dois dire.
Vous faites partie des privilégiés.
Tout à fait, oui.
Parce que c'est beaucoup moins drôle pour les jeunes d'aujourd'hui. Hein.
Oh, c'est difficile. Oui. C'est difficile, mais il y a la scène. Ceux qui sont capables de faire passer une bonne soirée aux gens...
C'est là qu'ils gagnent leur vie.
C'est là qu'ils gagnent leur vie. Et il y a de plus en plus de lieux qui font ça.
C'est revenu comme avant la guerre, au fond. Hein.
Bah, tout à fait. Mais vous savez, dans la dernière tournée, j'avais fait en Loire-Atlantique un concert. Un village de 800 habitants. Et il y avait une salle de 800 places, pleine. Il y avait, je suppose, les villages alentours qui étaient venus. Et après, après le concert, je rencontre le maire. Je lui dis, mais vous êtes fou, qu'est-ce qui vous a pris de faire un investissement pareil? Et il m'a répondu, vous savez, mes administrés ne vont plus à la messe le dimanche. Ils font leurs courses à des heures différentes, dans des supermarchés différents. Le seul endroit où ils peuvent se parler, c'est ici. J'ai besoin d'un spectacle par semaine. Ben, ça, c'est la chance des jeunes.
Je rappelle que vous serez au Casino de Paris les 14, 15 et 16 novembre prochains. Vous serez combien sur scène ?
Eh ben, il y aura Sébastien Quesada qui est là, qui sera aux percussions. Il y aura Arthur, que vous avez rencontré tout à l'heure,
fils.
À la guitare et aux voix. Il y aura Manu Galvin, son prof, qui sera à la guitare et aux voix. Il y aura Étienne Roumanet, contrebassiste. Et il y aura Bruno Guglielmi qui fera avec Arthur la première partie et qui, lui, est assez multi-instrumentiste, capable de jouer de la guitare, des percussions.
Qui a écrit Date Limite, la première chanson du nouvel album.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on sera pas très nombreux. Quoi.
Paraître ou ne pas être, c'est le titre de ce nouvel album de Maxime Le Forestier qui vient de sortir. Merci, Maxime, de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je vous laisse ici au Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers.
Je vais apprendre le Yoruba.
Merci de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je remercie le café, le Hollywood, où on s'est retrouvé au tout début de cette émission. Le Casino de Paris, bien sûr, où nous étions, la boutique Guitare Garage et le Conservatoire Edgar Varèse. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve tout l'été pour les meilleurs moments de la saison d'En Balade Avec. Et puis rendez-vous après l'été pour une nouvelle saison.